Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. Nous reprenons ensemble dans nos lectures en liberté la suite du récit de Sylvain Tesson sur les chemins noirs. Le 20 septembre, vers le Gévaudan. Une piste gagnait de l'altitude sur le flanc nord du mont Lozère. Elle se nommait « Route des chômeurs » et avait été construite en 1936. Nous aimions le caractère soviétique de cette appellation. Même nous autres Français avons été capables de grands efforts collectifs, dit Gras. Sur la crête du mont, nous allâmes à franche foulée en plein vent, coupant la lumière et les herbes anémiées. C'était une atmosphère dédiée à la marche. Nous étions prêts à ne jamais nous arrêter pour peu que la piste ne quittât pas la crête. Mais la géographie ne se maintient jamais comme on la rêve, sauf dans les plaines russes où l'uniformité étanche notre besoin d'ordonnancement. Le mont Lozère s'effondra. Il fallut redescendre, quitter la dorsale frontalière entre le sud protestant et les terres catholiques. Pendant 2 jours, nous passâmes par les causses sur lesquelles des ruines à faire pitié, à faire envie peut-être, balisaient le chemin. Nous avancions légers, sans nous préoccuper de rien que de trouver le chemin et soucieux d'y goûter les fruits offerts au regard, un noisetier, le vol d'un grèbe, une grange de pierres sèches. Nous nous contentions de cela. Nous nous extirpions du dispositif. Le dispositif était la somme des héritages comportementaux, des sollicitations sociales, des influences politiques, des contraintes économiques qui déterminaient nos destins sans se faire remarquer. Le dispositif disposait de nous. Il nous imposait une conduite à tenir insidieusement, sournoisement, sans même que l'on s'aperçût de l'augmentation de son pouvoir. Il existait un petit ver, la douve, qui infectait les fourmis et contrôlait leurs mouvements pour les contraindre à l'immobilité sur un brin d'herbe, afin qu'elles s'offrent en pâture aux herbivores, qui devenaient alors les nouveaux hôtes du parasite. La douve était le dispositif de la fourmi. Les puces au silicium étaient nos propres douves. Chacun de nous portait son parasite de son plein gré sous la forme d'un de ces processeurs technologiques qui régulaient nos vies. Les papous se transmettaient une vision du monde où le domaine des esprits se mêlait à la réalité. C'était leur dispositif. Le nôtre pourvoyait à notre confort, notre santé et notre opulence alimentaire, mais nous inoculait son discours et nous tenait à l'œil. Nous recevions ses informations, sa publicité, nous répondions à ses injonctions, il nous accablait de ses sommations diluées dans le brouhaha. Le discours du dispositif était un dispositif. Sur les chemins noirs, nous nous enfoncions dans le silence. Nous quittions le dispositif. La première forêt venue proposait une cache. Les nouvelles y étaient charmantes, presque indétectables, difficiles à moissonner. Une effraie avait fait un nid dans la charpente d'un moulin, un faucon faisait feu sur le quartier général d'un rongeur, un orvet dansait entre les racines. des choses comme cela. Elles avaient leur importance. Elles étaient négligées par le dispositif. Dans les villages, nous faisions des siestes éclairs près des fontaines où les pouvoirs publics annonçaient des eaux non contrôlées. Nous franchîmes des ravins de marnes bleues lacérées par les pluies et des fonds de vallées investis de lacs au bord desquels pique-niquaient les familles. Les chemins languissaient dans les vallonnements. Nous passâmes une nuit au sommet du talus boisé qui surplombait Minde, et c'était un délice au matin, en entendant la ville se réveiller, de savoir que nous échappions à sa rumeur et avions glané une nuit de plus à l'air libre, dans une trouée de la vie. Gras me disait ses voyages dans les forêts de Sibérie. Il était parti traverser l'extrême-orient russe à pied, du nord au sud, de manière que sa descente accompagna la progression de l'automne vers les basses latitudes. Escortant l'entrée des forêts dans l'hiver, il assurait le service mortuaire des arbres. Je lui déroulais ma théorie des saisons. Jusqu'à l'automne, les forêts étaient des masses indistinctes où l'œil aurait été en peine de distinguer un arbre de son voisin. Soudain, l'automne arrivait, allumait ses flamèches. Tel arbre au cycle plus court s'embrasait. Ici ou là, dans le couvert, des touches de feu s'individualisaient, un arbre devenait un être distinct, puis il s'éteignait pour l'hiver. À Barjac, une plaque sur le mur du cimetière. Passant, arrête-toi et prie. C'est ici la tombe des morts, aujourd'hui pour moi, demain pour toi. Le souvenir de ma mère défunte me murmurait confusément ce genre de choses. Sa pensée m'escortait par des jaillissements nés d'une vision. Pourquoi le souvenir des disparus est-il lié à des spectacles anodins comme une branche oscillant dans le vent ou le dessin de l'arête d'une colline? Soudain, les spectres surgissent. Pendant quelques mois, j'avais porté une bague à tête de mort qu'on m'avait retirée après ma chute. L'inscription latine gravée au revers du crâne disait la même chose que la plaque de Barjac. « Je fus ce que tu es, tu seras ce que je suis. » J'avais tardé à me pénétrer de cette évidence que les Romains inscrivaient à l'entrée de leur cimetière. Décidément, j'avais 2 millénaires de retard. Il était criminel de croire que les choses duraient. Les matinées de printemps étaient des feux de paille. Voilà longtemps que je ne m'étais pas trouvé exactement tel que je le désirais, en mouvement. Je jouissais de me tenir debout dans la campagne et d'avancer sur ces chemins choisis, noirs, lumineux, éclaircis. C'était la noble leçon de Madame Blixen devant le paysage de sa ferme africaine. Je suis bien là où je me dois d'être. C'était la question cruciale de la vie, la plus simple et la plus négligée. Nous contournions les trucs, comme disaient les vieilles gens, buttes stratifiées perçant la surface des causses. Le terroir mêlait l'intelligence des installations villageoises à la douceur des reliefs. À Vérac, nous crevions déjà de soif. Le village était vide, car les paysans étaient à la traite, et nous ne trouvâmes nulle fontaine. À Chasseran, elle était tarie, et nous avisâmes un vieux fermier. « La fontaine ne donne plus, monsieur ? Oh, les paysans sont les rois maintenant, ils font ce qu'ils veulent, ils ont coupé la source de mon enfance pour leurs vaches. » Il tendait un doigt accusateur vers une batterie de tracteurs sous un hangar de tôle. L'ensemble formait un temple à la mémoire des Trente Glorieuses. Notre vieux guide ne semblait pas prendre en compte que le vent avait tourné, même pour les propriétaires. Bah, ils ont des primes, ceux-là. À deux, ils possèdent le village. Mais vous, dis-je, nous ? Nous vivions de petits élevages de 50 ou 100 brebis, d'un potager et de la chasse. Ma mère leur a tout vendu. Il nous invita sur le seuil de sa maison, nous versa 2 litres d'eau et nous lança « Adieu ». En une seule hâte, nous avions passé la revue des récents chapitres de la campagne française. Il y avait le vieil archiviste gardant l'entrée de la grotte aux souvenirs. Plus loin, les bâtiments de la prospérité pompidolienne, sous les poutres desquels les paysans ruinés pouvaient à présent se passer la corde au cou. À la sortie du village, une ferme inoccupée dont la meilleure fortune serait de se voir achetée par un Anglais prêt à cultiver du quinoa. Nous gagnâmes un replat, ourlant le nord du plateau des Hermets. En bas, une ferme s'avançait sur le rebord d'un décrochement. Dans la vallée, les lumières de Marvejols tapissaient la nuit. La lune éclairait le Gévaudan au nord. Elle croisa mollement au-dessus de la vallée. Nous fîmes un feu de bois de ronces et pensâmes aux petites filles que la bête raflait derrière les congères au XVe siècle. Puis nous ronflâmes près des braises, après nous être promis de nouveaux voyages. Le lendemain, Gras rentrait en Russie avant d'embarquer à bord d'un bateau biélorusse pour une mission antarctique. C'est chemin noir à lui.
Il y a une route Tu apprends qu'est-ce que ça te coûte. Y'a une route, y'a même un chien qui court la tête entre les mains. Y'a une route, tu sais, y'a pendant des années des gens qui ont vécu le dos tourné sur une route abandonnée avec des marronniers sauvages qui jettent leurs fruits plein le paysage. Une route comme une blessure envers l'os de ton visage. Y'a une route, y'a une route avec des champignons qui poussent, qui font la neige et la mousse. Y'a une route qui coupe la brousse. Y'a une route emplie d'oiseaux aux yeux malades qui regardent vers l'équateur. D'où vient la fumée qui fait peur? D'où vient la fumée qui fait peur? Y'a une route. Y'a pas de tapis, y'a des fleurs comme des anémones qui attendent la pluie. Y'a une route, tous les 10 ans, y'a un marin qui jette l'encre au café du coin, qui parle de voyager plus loin. Après la route, faut prendre le train, tu descends dans le petit matin avec ta valise à la main. Y'a tellement de bruit que t'as plus d'oreilles. Puis finalement tout est pareil. Parce qu'à une route, tu l'allonges ou tu la coupes. Tu t'allonges et on passe dessus, ou tu te lèves et on tire dessus. Mais y'a une route, c'est mieux que rien. Sous tes semelles, c'est dur et ça tient.
Lecture en liberté, Denis Flageol.
Sylvain Tesson, sur les chemins noirs. Le 22 septembre, l'Aubrac. Je visais le cœur du Massif central, pays des secrets villageois, des écrivains bizarres, des futaies du mystère, des roches magmatiques et des bêtes du diable. Ici, on pouvait effacer ses traces. Il me fallait monter vers le nord en maintenant l'écart avec la lèvre occidentale de la Margeride où s'étirait une blessure, l'autoroute méridienne. J'allais plein de confiance car s'il était une région de France où je pensais trouver des possibilités de chemin noir, c'était là. Mon espérance fut payée de retour, sitôt quitté Marvejol. À l'ouest du village s'étendait le plateau de la Chame, quadrillé de murets granitiques, verrouillé de boris. Leur réseau encadrait de minuscules parcelles d'herbage. Très vite, la pluie tomba, et je me perdis dans un labyrinthe dont les minotaures n'étaient que de belles vaches à longs cils. En bien d'autres bocages, sur la plupart des causses, le remembrement avait massacré ses quadrillages. À Entrenas, la propriétaire d'une ferme m'expliqua que le chantier de l'A75, en 1975, en avait emporté les derniers vestiges. Le socle de la Chame subsistait à l'écart du grand axe. La patronne m'ouvrit la porte de sa grange où tambourinait la verse. À la lueur de la frontale, je partageai mon pain avec quatre chats maigres qui me remercièrent de mon invitation à dîner en me garantissant une nuit sans souris. Chaque matin, le soleil escaladait une barrière de nuages et peinait à passer la herse. À midi, c'était l'explosion. L'Aubrac, cravaché de rayons, me projetait en souvenir dans les steppes mongoles. C'était une terre rêvée pour les marches d'ivresse. Sur le plateau, je traçai une ligne droite, escaladant les clôtures, honte aux Parisiens, traversant les troupeaux. Parfois, un bloc reposait seul au milieu d'un champ ou au sommet d'un mamelon. J'y voyais le dé d'un jeu mégalithique oublié par un géant. Ce n'était qu'un affleurement granitique. Même le velours des vaches captait gracieusement la lumière. Dans l'Aubrac, on regroupait ces bêtes sous une appellation que je croyais réservée au peuple d'Asie centrale et à laquelle je regrettais de ne pas appartenir, race des grands espaces. Je saluai les fleurs d'Aubrac à gestes éperdus. Le ciel roulait un air de gaz pur, lavé par les pluies de la nuit, premiers essorages de l'automne. Les herbes claquaient, électrocutées de vent. Le soleil tournait et les rafales chargées de photons épluchaient mes idées noires, emportaient leurs ombres. Je passai les marais, montai sur les putches et arrivai au village des Bruyères, après des heures dans la soulographie du paysage. Un vieillard à l'œil inquiet, appuyé sur sa canne, s'hébétait au pied d'une croix de granit. Il était défiguré comme moi par une paralysie faciale. Et il semblait reconnaître une proximité dans ma disgrâce, car il m'adressa la parole comme si nous étions familiers. Nous deux visâmes face à face. « Bon, j'ai vécu à Paris, dit-il. J'étais bounia chez un Auvergnat qui tenait un bistrot, rue Diderot. »« Ah oui, les caves à charbon, dis-je. » L'homme donnait des coups de canne dans la terre à chaque phrase, comme Paul Léoto pendant ses entretiens, vlan, vlan. « Puis j'ai travaillé aux Halles. Je suis rentré ici à la retraite. Mes fils aujourd'hui élèvent des vaches. » Ça marche pour eux ? Bon, je crois pas. Vlan, vlan. Mais ils ont raison, car ils sont revenus. À la sortie du village, un panneau indiquait « Danger, milieu rural ». Était-ce pour précautionner l'automobiliste ou pour prévenir le citadin revenu au champ de la difficulté qui l'attendait ? Je descendis vers le cours de la Truyère par un versant raide. La retenue des années 1960 avait inondé la vallée et la pièce d'eau exhalait sa clarté métallique. Un pont suspendu reliait les rives et je gagnais Pierrefort à la nuit tombante pour dormir dans une forêt escarpée à l'entrée de la ville. Ce fut une nuit étrange, où je crus 10 fois rouler au bas du versant. Une nuit de rêve en pente. Pareille journée me comblait où j'avais échangé 3 phrases avec un gardien de calvaire, épuisé mes forces sur un plateau de lumière et n'avais touché le goudron qu'à la nuit tombante. Une journée à verser au crédit de la disparition désirée. Antidote contre la servitude volontaire. Le 25 septembre, La Planèse. Quelque chose n'allait plus. Ma mauvaise humeur était née de la lecture du quotidien La Montagne, où n'écrivait plus Alexandre Vialat, devant des tasses de café noir qui réparaient mon insomnie dans le bistrot de Pierrefort. Le numérique est une opportunité pour renforcer l'innovation, disait l'article. Cela commençait mal. Personne ne savait ce que signifiaient des trucs pareils. Mais tous les élus de la région applaudissaient. Ils s'étaient réunis en congrès à Murol et ils préparaient la connexion de leur campagne. Ils mettaient en place le dispositif. Le journal annonçait le très haut débit au secours de la ruralité. Ciel, pensais-je. Les voilà sauvés par cela même qui faisait clore les boutiques. « Ceux qui s'installent ici demandent le haut débit avant l'école », expliquait le maire d'un village dans l'interview, et il se félicitait par contre-coup de l'ouverture prochaine d'un collège tout numérique. Le nom de Mermoz avait été donné à l'établissement. Personne n'ajoutait que le demi-dieu de l'aéropostale qui avait réparé son avion pendant 48 heures sur un piton des Andes avec une clé à molette n'aurait pas eu grand-chose à carrer du haut débit. Personne n'ajoutait que tendre des écrans entre soi et le monde n'avait jamais rien arrangé. Trop de café, trop de journal, trop de promesses d'un monde meilleur. Trop de cette mousse acide que les matins font naître dans le clapot des bistrots. Il fallait repartir, dissoudre l'amertume à grands battements de pas. Et se dire que le haut débit était une solution fort acceptable à condition qu'il se résumât à celui des tonneaux percés d'un coup de hache dans les caves de Bourgogne. Je pestais tout le jour contre le ciel trop bas, où seuls semblaient se plaire les rapaces traquant le campagnol contre la versatilité des chemins. Construire de savants itinéraires sur la carte pour buter sur des impasses mourant dans les labours me faisait écumer. L'IGN maintenait sur les feuilles les anciens tracés cadastraux accaparés par les paysans. Les propriétaires ne se cachaient plus de prendre leurs aises avec l'administration et d'avaler les chemins dans les confins de leurs parcelles. Sur les pentes qui menaient au col de Pratt de Bouc, je montrais la carte au fermier qui machinait sa clôture. « Ce n'est pas un accès privé, lui dis-je, en lui désignant la trace que je cherchais. Vous ne trouverez pas ces chemins, ce sont de vieilles cartes. Non, c'est l'édition de cette année. Ben, ce sont de vieux chemins, alors on les a modifiés. » Je m'arrêtai vers midi au calvaire, à leurs pieds, à leur ombre. Je me livrais à ces exercices d'assouplissement que les kinésithérapeutes appelaient la position du mahométan, consistant à allonger les muscles du dos en se prosternant assis sur les talons. La densité des croix augmentait en ces plateaux. En ville, les admirateurs de Robespierre appelaient à une extension radicale de la laïcité. Certains avaient milité pour la disparition des crèches de Noël dans les espaces publics. Ces esprits forts me fascinaient. Savaient-ils que les croix coiffaient des centaines de sommets de France, que les calvaires cloutaient des milliers de carrefours ? Dans les forêts, dans le creux de certains troncs, au fond des grottes même, des statuettes de saints voisinaient avec les araignées nocturnes. Il arrivait aux alpinistes d'attacher leurs cordes à des vierges de plomb scellées dans le granit pour descendre en rappel du sommet des aiguilles. Par chance, les adorateurs de la raison étaient trop occupés à lire Ravachol pour monter sur les montagnes avec un pied de biche. Si j'affectionnais ces ferblanteries de la foi, ce n'était pas tellement que je crusse dans la fable morose d'un dieu unique, ni que je regrettasse le pouvoir des curés. Mais je n'aimais pas qu'on s'en prenne à ce qui était debout. En outre, parmi tous les symboles inventés par l'homme pour illustrer ses contes, je ne trouvais pas que la croix et les vierges des grands chemins fussent les pires. Il ne fallait pas s'échiner à déraciner les choses si l'on n'avait rien à replanter à la place. C'était un principe que le moindre agent de l'Office national des forêts aurait expliqué savamment à un agnostique. Voilà, nous avons terminé pour ce soir donc la suite de ce récit de Sylvain Tesson sur les chemins noirs que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.